Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, aussi bien ceux qui sont avec nous dans l'amphithéâtre, l'assistance qui est encore un peu dispersée en ces temps de levée de restrictions de Covid, et évidemment tous ceux qui sont plus lointains et que je suis content aussi d'accueillir pour cette nouvelle session des troisièmes mardis de l'IAP. Excusez-moi, j'entends un bruit que je ne devrais pas entendre. Voilà, désolé de ce petit détail technique. Et donc, je suis heureux de vous accueillir ici dans l'amphithéâtre de l'Institut d'astrophysique. Et Jean Audouze, ancien directeur de ce même institut, va vous présenter. Jean, à toi le...
Eh bien, merci François. Eh bien, merci à vous tous. Les uns d'être ici, et merci, voilà, et les autres d'être devant leur écran. En tout cas, et bien entendu, les uns les autres pourront poser toutes les questions qu'ils souhaiteront à donc Nathalie Delbar, qui est professeure en arts plastiques à l'Université de Lille et qui est à la directrice aussi du Centre d'études des arts contemporains. À la même université, donc elle travaille, et en fait, elle utilise le regard, l'optique, pour essayer de comprendre les œuvres d'art. Et donc elle, aujourd'hui, c'est un sujet qui nous intéresse, nous les astronomes, hein, puisqu'on doit interpréter les images, mais donc on va écouter avec intérêt comment vous vous y prenez pour... justement utiliser les images pour interpréter ou comprendre les œuvres d'art. En tout cas, le titre de votre intervention, dont je suis très, très reconnaissant que vous ayez accepté, de venir chez les astronomes, voilà, c'est « Oculométrie et perception des images, nouveaux enjeux esthétiques ». Merci Nathalie.
Merci à vous, Jean. Je vous remercie vivement pour cette invitation et merci aussi à François Boucher de m'accueillir à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors effectivement, mon domaine de recherche est celui des arts et notamment des arts visuels, de la peinture et de la photographie, en tout cas des images d'art. J'espère néanmoins, puisque je n'ai aucune connaissance, comme vous l'imaginez, en astrophysique, que nous pourrons trouver des terrains communs pour discuter autour du regard. Alors effectivement, Jean m'a proposé de venir parler d'un programme de recherche que j'ai mené il y a quelques années, c'était en 2015-2016, où j'ai eu recours à des oculomètres, donc des appareils qui permettent d'enregistrer les déplacements oculaires. C'était assez inédit, même si j'ai des collègues en histoire de l'art qui m'ont précédé, mais ce sont des recherches, comme vous l'imaginez, qui sont assez marginales, hein, dans le champ de l'histoire de l'art. Et donc, c'est de ça dont je vais essayer de vous parler, de vous rendre compte. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet et pour vous exposer un petit peu quelles ont été les recherches et les résultats de ces recherches, les hypothèses que nous avons soulevées avec donc ces appareils qui mesurent les déplacements oculaires, je vais me permettre de faire un préambule qui va être un long préambule, mais qui me paraît indispensable pour pouvoir comprendre comment justement des historiens de l'art, des théoriciens des images peuvent à un moment donné se déplacer vers ce type d'outils. Alors, ça sera en deux points. Le premier point de ce préambule, ça va être lié à la motivation scientifique de ce travail. Alors, pour introduire peut-être ça, j'ai choisi cette œuvre de Renoir, absolument magnifique, La Loge, qui me permet de vous faire part de l'intérêt que j'ai depuis très longtemps en tant que chercheuse en art pour justement le regard. Alors, le regard, la perception visuelle, la manière dont nous regardons les œuvres dans différentes situations, que ce soit au musée ou que ce soit dans des reproductions, et ça j'en reparlerai puisque nous avons fait des mesures oculométriques à la fois devant des écrans et à la fois dans des situations d'exposition. Et puis, ce qui m'intéressait avec ce tableau, c'était de montrer tout de suite, finalement, la complexité du regard, il faudrait plutôt dire des regards, puisque nous avons là deux personnages qui eux-mêmes montrent le caractère double, voire multiple du regard. Cette femme qui nous regarde peut-être, mais se sait aussi observer. Cet homme qui, à l'inverse, regarde ailleurs avec justement des jumelles. Donc déjà, à la fin du XIXe siècle, l'importance des appareils de vision, les peintres l'ont bien perçu et on le voit avec ce tableau de Renoir. Il y a aussi le fait que ces deux personnages viennent dans un théâtre, donc ils viennent voir un spectacle, mais ils viennent aussi se donner à voir. Donc on a aussi ces relations-là. Et puis peut-être cette femme qui est objet de notre regard, alors que cet homme, lui, regarde vers un espace ou vers d'autres personnages que nous ne voyons pas. Donc on a bien comme ça une combinaison de relations visuelles entre les personnages à l'intérieur du tableau, mais aussi entre le spectateur qui, soit dit en passant, est dans une position tout à fait impossible, puisqu'il se trouve face à une loge, comme s'il flottait devant la loge. Donc c'est tout le jeu aussi des artistes, évidemment, que d'introduire des formes de regard qui, peut-être, ne sont pas tout à fait celles que nous avons l'habitude d'avoir, disons, dans l'expérience quotidienne. Donc cette complexité des regards, elle m'a amenée à essayer d'affiner les concepts qui pouvaient me permettre de définir les formes de regard, les modalités de regard que les artistes à travers les siècles avaient tenté de déployer et à montrer que finalement, comme on le voyait dans le tableau de Renoir, le regard peut être une adresse directe, mais peut-être aussi indirecte, puisque appareillé ou utilisant différents substituts pour relayer la vision. Du coup, j'ai organisé avec une collègue en cinéma, Emmanuelle André, un ensemble de manifestations comme ce colloque où nous avons essayé, à travers le cinéma, la photographie et la peinture, de déterminer justement ce que pouvait être un œil relayé. Alors, qu'est-ce que serait un œil relayé ? Eh bien, ce serait un regard qui donc procéderait de manière indirecte, par ricochet, d'une certaine façon, peut-être que ça parlera aussi aux astrophysiciens. Et nous avons identifié différentes manières de relayer un regard. Le premier serait celui de la main, du geste, hein, qui indique, qui désigne, qui pointe. Déjà, Alberti, dans son traité de la peinture, invite les peintres à dessiner, représenter un admoniteur, c'est-à-dire un personnage qui va venir indiquer les choses à regarder, les sentiments à avoir, donc qui est finalement lui-même l'indicateur dans le tableau de la manière dont nous devons regarder. Alors j'ai pris cet exemple de Philippe de Champaigne, pardon, que je trouve magnifique parce que extrêmement flagrant dans la manière dont il inverse les priorités de notre regard. Il est au premier plan, mais finalement, ce qui compte, c'est ce qu'il nous désigne dans l'arrière-plan. Le bras est dans l'ombre, et c'est le Christ, mais tout petit, très discret, à la périphérie du tableau. Je n'ai pas soumis, par exemple, ce tableau aux mesures oculométriques, mais on aurait pu imaginer de mesurer au bout de combien de temps véritablement l'attention se porte sur l'objet réel de ce tableau, mais qui est presque caché volontairement par le peintre. Autre moyen de relayer la vision et de faire que le spectateur lui-même ricoche, on pourrait dire, à l'intérieur du tableau, des objets. J'ai choisi ce tableau de Velázquez pour l'illustrer, cette jeune femme dans la cuisine ne nous regarde pas cette fois-ci, elle ne nous appelle pas directement. En revanche, nous sommes interpellés par son corps qui semble arrêté, son attention qui semble décuplée, elle écoute peut-être quelque chose ou peut-être voit-elle dans le reflet des objets qui se trouvent devant elle la scène qui se trouve derrière elle. Scène d'ailleurs dont on ne sait pas tellement s'il s'agit d'un tableau ou d'une ouverture dans le mur qui nous permettrait de voir le repas à Emmaüs. Et là encore, vous voyez, ce qui est essentiel dans le tableau se retrouve finalement assez minoritaire à la surface de l'œuvre. Au passage, le repas d'Emmaüs, c'est intéressant, c'est le moment où le Christ se révèle à ses convives, où l'aveuglement cesse et où enfin les disciples le reconnaissent. Donc il y a aussi un temps de latence avant de pouvoir reconnaître finalement ce qui est à voir. Donc tous ces exemples sont là pour vous montrer à quel point les peintres jouent avec la manière dont nous pouvons regarder les choses, mais aussi finalement par les moyens de la peinture interrogent les modalités justement du regard. Et ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver, je pense qu'il y a une véritable intuition de la part des peintres d'avoir compris déjà, bien avant les oculomètres, finalement, comment fonctionnent aussi nos manières de voir. Dernière image par rapport à cette question de l'œil relayé, J'aimais bien cette photographie, Karen Nord, je trouve, a beaucoup d'humour avec cette photographie qui montre finalement, alors ce serait l'analyse de la beauté, mais qui montre à quel point justement le regard peut être en difficulté, a besoin de toute une série d'appareils peut-être pour regarder, posant la question de la proximité ou de l'éloignement qu'il faut avoir pour voir les œuvres, pour comprendre les œuvres, et puis tous ces tableaux accrochés au mur hein, qui aussi peut-être font que notre regard est un peu perdu. Mais ce qui me plaisait aussi dans cette photographie, c'est effectivement l'idée que notre vision de plus en plus est appareillée, c'est-à-dire qu'on a aussi une sorte de vision augmentée par le biais justement d'un certain nombre de dispositifs. Alors j'essaie de ne pas perdre trop de temps sur ce préambule. Autre notion sur laquelle j'ai travaillé, c'est celle de distraction, puisqu'on parle souvent d'attention que l'on prête aux œuvres, aux choses, mais finalement on pourrait se dire aussi que la distraction, qui serait une forme d'attention justement en négatif, hein, qui serait une sorte de dispersion justement de l'attention, eh bien, est peut-être une modalité qui nous est de plus en plus familière du fait de la manière dont nous recevons aujourd'hui un certain nombre d'images. Alors, on peut trouver bien sûr des formes de distraction très tôt, là encore, dans l'histoire de la peinture. Je vous ai mis cette vue de galerie avec tous ces tableaux et puis ce commentaire de l'historien de l'art Stoikita qui parle justement hein, du découpage auquel est soumis le tableau qui empêche l'œil de suivre un parcours linéaire et l'oblige à procéder par blocs, à aller sans arrêt d'un fragment à l'autre, d'une image à l'autre. Le regard ricoche sans cesse de point en point, ne pouvant s'arrêter sur rien. Et finalement, cette multiplication des images, hein, cette fragmentation de la vision, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est beaucoup plus présent aujourd'hui dans notre environnement quotidien, que ce soit sur nos écrans d'ordinateur, avec toutes ces fenêtres qui s'ouvrent. On peut trouver des exemples même assez tôt hein, dans le cinéma, avec ce qu'on va appeler les split screen, hein, ce sont des écrans partagés. La première fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de film, mais la première fois qu'on regarde des films comme ça avec des multi-écrans, il y a un effet de désorientation, on a le sentiment qu'on va perdre une partie des informations et il nous faut du coup choisir, discerner, aller de plus en plus vite. Hein, et donc toutes ces modalités-là, donc, qui sont des formes de distraction, parce qu'une fenêtre va nous distraire de ce qui se passe dans une autre, me semblent aussi très importants pour comprendre pourquoi aujourd'hui les historiens de l'art ont besoin peut-être de certains outils pour analyser les œuvres. Juste je ne vais pas lire la citation tout entière, mais j'aime beaucoup cette réflexion de Wilhelm Flusser pour une philosophie de la photographie qui montre aussi lui-même, hein, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les propos des théoriciens comme des artistes, on trouve très souvent des descriptions de cheminement du regard, alors qu'eux-mêmes n'ont pas utilisé des appareils pour le mesurer. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de pouvoir décrire la manière dont un œil balaye la surface d'une image. Donc il va parler de scanning, hein, il évoque justement un regard qui va instaurer des rapports de signification entre les éléments, on a besoin de faire du lien entre les éléments de l'image, mais l'expression que je voudrais retenir ici, c'est l'idée de complexe de signification. Il montre que finalement, il y a des allers-retours et l'interprétation des œuvres, elle va se faire justement dans cette complexité de déplacement du regard, du fait d'y retourner, hein, de développer une attention sur le long terme. Donc on a vraiment affaire à quelque chose qui est loin d'être simple hein, en termes de visionnage des œuvres, enfin me semble-t-il. Pour information aussi, parce que je pense qu'il est très intéressant d'écouter l'historien de l'art Raphaël Rosenberg, qui est vraiment le spécialiste en histoire de l'art d'un usage de l'oculométrie hein, ou des eye tracking pour vraiment analyser les œuvres, mais qui est aussi un spécialiste de ce qu'il appelle une histoire de la perception des œuvres d'art. Et vous pouvez trouver plusieurs conférences qu'il a données au Collège de France en ligne qui sont tout à fait passionnantes. Et il montre notamment que très tôt, hein, dès l'Antiquité, on va trouver dans les textes cette description justement du cheminement de l'œil à la surface d'un édifice, à la surface de différentes œuvres. Là, par exemple, hein, Procope de Césarée qui décrit le regard devant Sainte-Sophie à Istanbul, qui dit « les yeux ne peuvent pas s'arrêter longtemps et considérer un endroit sans être aussitôt attiré par d'autres ». Donc déjà, hein, il décrit un regard dynamique. Et ce que les spécialistes de l'oculométrie, des neurosciences et des psychologies, de la psychologie de la vision ont très vite perçu, c'est le fait que notre vision est faite de saccades et de points de fixation. Donc les saccades, ce sont les mouvements hein, d'un point à un autre, et les points de fixation sont les endroits où l'œil s'arrête, même de manière très rapide, parfois plus approfondie. Donc les points de fixation sont vraiment les choses que nous voyons. Ce qui se passe entre un point de fixation et un autre, hein, cette ligne-là, ce qu'on appelle la saccade, est en fait aveugle. Mais bien évidemment, les choses se passent tellement vite que nous avons le sentiment d'une perception visuelle fluide. Mais on voit que très tôt, les théoriciens comme les artistes comprennent que cette fluidité est un leurre. Hein. Finalement, il y a des effets de saccade et des difficultés aussi à vraiment percevoir le mouvement de l'œil. Donc on le voit à travers les siècles. Hein. Diderot, par exemple, va être un de ceux qui va le plus décrire la manière dont le regard, selon lui, hein, il suppose, puisqu'il n'a aucun appareil pour le vérifier, se déplace à l'intérieur d'un tableau. Et il va faire des comparaisons entre tel ou tel peintre pour voir, supposant que le peintre volontairement, finalement, nous incite à regarder de telle ou telle manière, plutôt de manière enchaînée et souple, ou au contraire, dans une sorte d'agitation, de frénésie, comme il le décrit par exemple ici. Ce que Raphaël Rosenberg a beaucoup étudié avec Diderot, c'est ce que Diderot appelle une ligne de liaison. Diderot a justement l'impression que nous nous déplaçons de manière continue devant un tableau. Et Raphaël Rosenberg va reprendre les tableaux décrits par Diderot, va les analyser avec des eye tracking et va montrer que finalement Diderot se trompait. Il n'y a pas cette fluidité dont on parlait, mais il ne se trompait pas complètement sur le mouvement général que fait l'œil. Autre exemple encore, rapidement, hein, devant la grande odalisque d'Ingres, Marcel Valle, alors là on est dans la première moitié du XXe siècle, va faire même un tracé mathématique d'une courbe en imaginant que donc l'œil va suivre ce mouvement, hein, notre œil la suit, dit-elle, et puis elle ajoute qu'il se poursuit intérieurement par la vibration qu'il a déclenchée, donc on aurait vraiment un effet vibratoire de la vision dans le corps lui-même. Deuxième point de mon préambule avant de passer aux mesures oculométriques, un point technique, mais qui me paraît important, un point de méthode, on pourrait dire aussi. Notre hypothèse, puisque j'ai travaillé avec d'autres collègues hein, autour de ce projet, c'était de se dire que l'oculométrie pourrait venir, comme d'autres techniques, à l'appui des historiens de l'art, et notamment, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pratiques, on pourrait dire matérielles, empiriques, que certains historiens de l'art ont fait, et qui ont permis de modifier de manière assez significative la compréhension et l'interprétation des œuvres d'art. La radiographie est un magnifique exemple hein, de cet usage technique. Vous connaissez tous, je pense, ce chef-d'œuvre de Velázquez, Les Ménines. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la radiographie qui a pu être faite à un moment donné a modifié l'interprétation qui était généralement donnée, puisque, vous le savez sans doute, nous voyons le peintre Velázquez devant sa toile, nous avons un certain nombre de personnages de la cour de Philippe IV qui sont venus, regardez quoi, les modèles en train de poser pour le peintre. Qui sont ces modèles? Eh bien, le miroir qui se trouve ici nous le dévoile. Il s'agit du roi et de la reine. Donc, c'est un double portrait royal. Et donc, Michel Foucault, notamment, dans Les mots et les choses, a écrit un très beau texte où il va expliquer que nous sommes à la place du roi et de la reine et que finalement, tout converge en un seul point. Ça, c'est, disons, l'analyse habituellement suivie, hein, y compris par les historiens de l'art. Ce que Daniel Arras, l'historien de l'art, a dit, c'est que c'est une très belle interprétation, mais historiquement fausse. Pourquoi ? Parce que la radiographie a révélé que la première version du tableau, que nous ne connaissons pas, eh bien, il n'y avait pas la toile ici retournée que vous voyez, ce n'était pas une situation de peinture, hein, du peintre en train de représenter ses modèles, mais il y avait un jeune homme avec un bâton de commandement qui tendait à l'infante Marguerite, l'héritière, le bâton parce que justement, il s'agissait d'un tableau dynastique. Le roi souhaitait montrer qui allait lui succéder. Sauf que, alors que ce tableau, dans sa première version, est peint, un petit frère à la cour va naître, Prospero, c'est un mâle, il devient l'héritier, donc le tableau est caduc. Il n'est plus possible de laisser le jeune homme avec son bâton. C'est ce que la radiographie a permis de comprendre. Et donc la version que nous avons aujourd'hui d'Éménine est une version finalement arrangée hein, en fonction de ce qui s'est passé à l'époque dans la famille royale. Un autre exemple rapidement, ça sera le dernier hein, sur ces questions techniques, ce magnifique tableau d'Édouard Manet, hein, le dernier tableau, grand tableau, puisque le peintre va mourir l'année suivante, qui se trouve à Londres, qui montre Suzon, donc une barmaid derrière son bar. Là aussi, la radiographie est très intéressante. Alors, elle montre toute une série de choses, par exemple, pas facile hein, de deviner, mais vous voyez peut-être qu'elle avait les mains croisées, enfin, ça permet de voir quels sont les repentis, hein, en fait, les repentirs du peintre. Mais un détail qui pourrait paraître anodin, que l'historien de l'art Thierry Dedieu a relevé, il va se rendre compte à la radiographie que, vous voyez ici, en fait, ce qui se trouve derrière la barmette, c'est le reflet, c'est le miroir, hein, c'est ce qui se reflète dans le miroir. C'est pour ça que nous la voyons de dos et que nous voyons un homme face à elle. C'est ce qui nous permet de comprendre qu'un homme est en train de s'adresser à elle. Et il y a aussi le reflet du bar lui-même, hein, sur lequel elle met ses mains, et qui se termine ici. Vous voyez qu'on a l'arête là du bar. Dans la radiographie, on se rend compte que dans la première version du tableau, que nous ne connaissons pas, le bar était un petit peu plus long. C'est un détail qui peut paraître très insignifiant, mais Thierry Dedieu s'en sert pour essayer de trouver le point de perspective du tableau. Il faut au moins deux lignes de fuite pour trouver ce point de perspective, ce point de fuite, et donc il va prendre justement l'arête du bar, et puis, en fait, cette médiane hein, qui passe à travers le corps du modèle. Dans la version que nous ne connaissons pas, dans la version intérieure, le point de fuite se trouve entre les yeux de Suzon. Ça peut paraître anecdotique. Pour les historiens de l'art, trouver le point de fuite, c'est très important parce que du point de fuite, on déduit le point de vue. Hein, dans la théorie de la perspective, là où se trouve le point de fuite, à l'horizon de ce point de fuite, c'est la place théorique idéale du regard du spectateur. Donc, dans la première version, finalement, nous étions dans un échange de regards entre le modèle et le spectateur. Mais Manet, alors on ne sait pas exactement pourquoi, a décidé de raccourcir son bar, et du coup, le point de fuite arrive dans la bouche de Suzon. Comme dit Thierry Dedieu, c'est un détail spatial infime, mais symboliquement, ça peut être assez important, puisque nous savons que ce tableau est un tableau qui questionne les relations de l'époque entre les hommes et les femmes, que quand nous regardons cette femme au départ, nous ne voyons pas tout de suite qu'un homme se trouve devant elle, qui est à peu près à notre place, et que échanger des regards ou échanger des paroles, ce n'est pas tout à fait la même chose dans la place que la jeune femme peut occuper face à son interlocuteur. Et puis c'est aussi une zone sensuelle, hein, la bouche, donc du coup ça va valider d'autant plus l'idée qu'il s'agit d'un tableau qui évoque le trouble de la jeune femme face à l'invitation de l'homme que l'on devine dans le miroir. Voilà, alors je m'arrête là, mais c'est pour vous dire que nous avons essayé d'imaginer l'oculométrie susceptible de nous aider, comme le fait la radiographie finalement dans l'analyse des œuvres, à une différence près, c'est que l'oculométrie est du côté de la réception des œuvres, alors que la radiographie nous informe sur la manière de faire des peintres. Mais notre hypothèse était de repartir des effets de l'œuvre produite sur le spectateur pour remonter jusqu'aux décisions artistiques et en déduire finalement, puisque nous supposons que les artistes ont une intuition et une connaissance empirique de la vision, en déduire justement des manières de construire le regard pour le spectateur. Une remarque au passage aussi, c'est intéressant de voir que je vous ai montré plusieurs œuvres de la période, disons, de la fin du 19e siècle, impressionniste, et ce n'était pas par hasard hein, que je parle de Manet ou de Renoir. Le 19e siècle est aussi un moment de bascule, hein, comme l'a montré Raphaël Rosenberg, où on va passer d'une optique géométrique, hein, comme il l'a montré, à une optique physiologique. On ne va plus finalement penser l'œil de la même manière et la subjectivité de l'œil va être le nouveau paradigme de l'optique comme il le dit lui-même. Et le 19e siècle est le moment où on va voir apparaître les premiers eye trackers. Alors, il y a déjà Javal, ophtalmologue français, qui va constater, comme je disais, que le regard n'est pas fluide. Mais en 1898, pour rappel, la photographie est inventée en 1839, le cinéma en 1895. Donc, tous ces appareils qui produisent des images s'inventent à peu près au même moment que l'eye tracking. On va avoir donc une première version en 1898, c'est ce que vous voyez là. Alors, c'est un système qui semble assez... désagréable puisqu'il y avait une sorte de lentille sur l'œil qui dégageait la pupille et puis il y avait un bras en aluminium qui reproduisait le mouvement de l'œil sur le papier. Donc bon, c'était assez intrusif, mais progressivement, alors là j'ai mis quelques dates, 1937 notamment, il va y avoir les études de Buswell sur le mouvement oculaire. Pour la lecture, là aussi, le premier usage des eye tracking, c'était essayer de comprendre comment nous lisons, comment nous pouvons aider aussi peut-être ceux qui ont des difficultés de lecture, mais aussi sur la visualisation des images, étonnamment, assez tôt. Et puis, il va y avoir comme ça toute une série de perfectionnements en fait, des appareils, avec un usage finalement qui était donc d'abord médical et scientifique, qui va ensuite aller dans différents domaines. Et on pourrait dire qu'à partir des années 80-90, l'usage de l'eye tracking va aller du côté notamment du marketing. On va avoir beaucoup d'études du côté de la publicité, etc. Donc ça, c'est un des usages. Et puis ensuite, et notamment au tournant du 21e siècle, un usage en informatique, mais aussi beaucoup pour étudier comment nous regardons les sites Internet. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement présent. Alors, pour le confort de l'internaute, nous dit-on, mais aussi pour voir où placer les informations au bon endroit, y compris les publicités, etc. Donc, il y a toute une étude, toute une économie de l'attention aujourd'hui qui est fondée aussi sur ce type de mesures. Donc, je ne sais pas si le procédé pour vous est familier. Il y a toute une série de dispositifs. Je ne suis pas la spécialiste techniquement de l'eye tracking, mais disons qu'il y a au moins deux modalités. Soit vous êtes devant écran, comme c'est le cas sur ce visuel, et vous avez une caméra infrarouge qui va détecter justement la lumière infrarouge sur l'œil et qui va du coup la capter. Et donc cette donnée va être traitée par un algorithme sur l'écran d'ordinateur. Ou alors on a des procédés aujourd'hui de plus en plus intéressants, mobiles. Ce sont des lunettes que l'on porte et du coup qui permettent de se déplacer. Et c'est ce que nous avons utilisé lorsque nous avons travaillé devant des œuvres au musée. Je vais passer là-dessus, mais c'est Jonathan Crary, qui est cet historien de l'art américain qui a justement beaucoup étudié les manières de voir au travers des siècles, a relevé combien aujourd'hui, effectivement, la consultation d'une page web est un objet d'étude vraiment extrêmement poussé et qu'il y a effectivement des enjeux économiques aussi qui sont très importants derrière cet usage de l'eye tracking. Ce n'est pas du tout de cette manière-là que nous avons voulu travailler, évidemment, mais au contraire, non pas supposer que nous allons trouver des catégories de spectateurs, ce n'était pas l'objet du tout de notre travail à nous. Nous visions surtout à comprendre mieux comment les artistes travaillent et quel type de regard ils produisent à partir des œuvres. Donc on n'est pas du tout dans le même objectif. Je mets cette référence pour information. Je pense qu'on peut trouver des extraits de ce film du cinéaste allemand Harun Faruqi en 2001. Qui a suivi justement une boîte de consulting qui doit créer un centre commercial et on voit qu'ils s'appuient sur toute une série de données et en particulier, ils vont mesurer sur tout un panel de personnes le déplacement des regards devant des publicités à l'intérieur d'un centre commercial pour voir justement où placer les affichages, etc. Et ça, ce sont des techniques qui sont effectivement beaucoup utilisées autour de ces années 2000. Je voulais aussi vous parler de l'eye tracking prédictif, qui est quelque chose qui est évidemment beaucoup plus facile d'usage puisqu'il n'y a plus besoin de spectateurs. L'idée, c'est qu'on se base sur des données existantes, hein, toute une série de mesures qui ont été faites avec des personnes, et puis ben, on va produire des modèles supposés être efficaces dans 90% des cas, 80, même plus, hein, là c'est 90, hein, comme nous dit cette publicité. L'idée, c'est que le logiciel, sans mesurer votre regard, mais simplement si on lui présente une image, va pouvoir vous dire où est-ce que vous allez regarder. Donc il y a vraiment cette dimension prédictive d'être capable d'identifier ou de supposer par avance ce que le consommateur ou le spectateur, sur quoi il va poser son attention. Ce qui laisse entendre que nous aurions tous les mêmes manières de regarder, ce qui pour nous, du point de vue des sciences humaines, était quand même une interrogation et ça faisait partie des choses que nous voulions vérifier. Est-ce que vraiment nous suivons les mêmes modèles, est-ce qu'il y a des catégories comme ça de regard? Alors, nous avons travaillé avec un collègue qui est psychologue, hein, qui est spécialiste de la vision, et quand on l'a rencontré au départ, Laurence Parot nous a dit les cartes de science sont un petit peu comme les eye tracking prédictifs, ce sont c'est un logiciel, pareil, vous donnez une image, comme par exemple celle-ci que j'avais donnée d'un photographe canadien, et le logiciel va pouvoir vous dire où seront les points d'attention, où seront les endroits dans l'image où le regard va se poser. Et les cartes de science se fondent sur trois critères, hein, qui sont des critères de contraste, critères de forme, critères de couleur et critères de lumière. Donc ce sont des critères qui sont très proches des critères d'analyse d'œuvres, d'art. Et donc nous avons commencé par ça. Avant de mesurer les spectateurs, nous avons passé ces images à l'eye tracking. Alors là, par exemple, pas à l'eye tracking, à la carte de science. Voilà ce que l'ordinateur nous a dit. Il nous a dit, le spectateur devrait regarder en priorité ces deux endroits. Alors évidemment, ça paraît assez logique puisque ce sont les points lumineux, les points de contraste. Mais en même temps, c'est très peu satisfaisant parce qu'en fait, il me semble que le problème de la carte de science, c'est que ça ne prend absolument pas en compte la nature de ce qui est représenté. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une scène de guerre aussi bien qu'une nature morte, ça sera indifférencié. Donc déjà, tout ce qui peut créer des émotions, tout ce qui peut relever justement de la scène elle-même, de l'image, est mis hors de côté. Donc je pense que ce n'est pas très convaincant de ce point de vue-là. Par contre, ça montre bien que Jeff Wall, qui est un artiste qui met en scène ces images, eh bien, évidemment, à encadrer de deux lumières les personnages principaux de cette photographie, puisque c'est une ventriloque avec sa marionnette sur les genoux. Mais on n'était pas très convaincus, je dois vous dire, avec mes collègues, de ces cartes de science. On a essayé avec une autre photographie en se disant, justement, je pense à la distraction du regard, prenons une image où finalement il n'y a pas un événement principal, mais tout un ensemble de personnages qui sont dispersés à la surface de la photographie. Que nous dit la carte de science? Pas grand-chose, on pourrait dire, puisque finalement, là encore, elle ne va pas vraiment discriminer. Donc, c'est une attention dispersée, mais on peut être surpris. Évidemment, on ne s'imagine pas forcément que le kiosque sera à ce point un objet d'attention. Donc, je vous montre ça pour vous dire que pour nous, c'était plutôt décevant au départ de travailler avec ces cartes de science. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit qu'il fallait évidemment travailler avec vraiment des personnes qui regardent les images. Au passage, c'est un film de Kiarostami, Sherin, qui ne montre que des spectatrices dans un cinéma, mais qui ne montre pas le film, mais ce que les émotions des spectatrices. C'est un film, c'est une histoire d'amour dont on entend simplement l'histoire. Et en fait, les visages de femmes ont des expressions extrêmement variées. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que nous sommes vraiment partis du présupposé qu'il y avait justement, que nous avions des regards singuliers, qu'il était quand même difficile de les réduire, comme le font peut-être les cartes de science, à des modèles qui seraient universels et qui seraient communs à tous. Donc c'était, en tout cas, nous espérions quelque part être rassurés par nos mesures. Je vais peut-être passer ça. Alors, maintenant, je vais vous présenter le programme, enfin en tout cas certaines des choses que nous avons essayé de faire, quels étaient les objectifs de notre programme. Première chose, faire de l'oculométrie un outil d'analyse dans le cadre d'une formation en art. En fait, tout ce que je viens de vous montrer avant, c'était des choses, évidemment, dont nous parlons avec les étudiants, mais sur la base de ces réflexions, nous avons essayé, justement, d'ajouter à nos outils d'analyse l'oculométrie. Et c'était un grand succès, je dois le dire, pour les étudiants en art. C'est-à-dire que c'est une vraie découverte. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà testé le système de l'eye tracking, si vous avez déjà eu votre propre regard qui est enregistré, mais c'est très surprenant, parce qu'en fait, on croit savoir où est-ce qu'on a regardé, on a quand même l'impression de maîtriser notre regard, et en réalité, on est assez, sur les premières mesures en tout cas, étonné. On se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas regardées du tout, qu'on a eu un cheminement du regard dont on n'avait pas eu conscience. Donc, c'était très intéressant pour les étudiants, parce que ça montrait le fossé qu'il peut y avoir entre ce qu'ils projettent sur l'image et la manière dont effectivement le regard circule. Donc, je ne reviens pas trop là-dessus, mais il me semble que ça serait intéressant. Moi, j'aurais aimé pouvoir le garder hein, dans mes cours, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est toujours la question de la relation entre art et science, comment on peut articuler les choses dans les formations. L'autre objectif, c'était questionner l'incidence des différents supports et formats de l'image sur sa réception, comparer l'expérience visuelle devant écran et en situation de visite. Effectivement, et ça c'est un point important pour nous, nous étions donc des collègues de cinéma et d'art plastique et la plupart des mesures que nous avons vues des œuvres d'art effectuées, je mets de côté le travail de Raphaël Rosenberg, mais plutôt effectuées par des chercheurs en psychologie et en sciences cognitives, travaillaient uniquement sur des reproductions d'œuvres. Et pour nous, c'était difficile d'imaginer qu'on va avoir un résultat intéressant quand une peinture fait 3 mètres sur 4, quand on la voit dans une situation de musée où il y a du bruit, où il y a d'autres tableaux accrochés. Donc on espérait pouvoir, hein, justement avec les dispositifs mobiles, comparer une même œuvre devant écran et au musée. Et puis on voulait aussi, et ça on a eu plus de mal à le faire, mesurer les effets de la polyvision. Hein, tout à l'heure je vous montrais des écrans voilà, partagés. Ça a été plus difficile, on n'a pas eu beaucoup de temps pour avancer sur cet aspect-là, mais bon, on a quand même eu quelques éléments. Alors, pour surtout venir sur la comparaison entre l'image sur écran et l'œuvre au musée, nous n'avons pas été les premiers à le faire. Là, je vous montre un tableau de Francis Bacon qui a fait l'objet à la fois de mesures oculométriques devant écran et lors d'une exposition au musée Mayol. Et c'est une collègue en neurosciences, Zoe Capula, qui a effectué ces mesures. Alors, le protocole de départ, c'était de prendre des étudiants en art et des étudiants qui n'étaient pas en art, donc des regards qu'elle appelait experts ou non-experts, pour comparer déjà entre ces deux types de populations. Grosso modo, ces résultats, c'est que les experts vont plus vite, mais finalement, les non-experts vont faire à peu près le même cheminement, simplement le temps sera un petit peu plus long. Et puis, les regards experts, selon ces résultats, vont pas seulement focaliser sur des détails figuratifs, mais vont avoir aussi rapidement une perception globale pour essayer de saisir la composition du tableau. Donc bon, voilà, ce qui n'est pas très surprenant finalement. En revanche, sur le rapport entre les mesures devant écran et les mesures au musée, voilà ce qu'elle dit. Les mouvements des yeux sur une telle reproduction ont montré que les zones les plus observées étaient les mêmes que pour la vraie peinture. Pour elle, ce qui a été beaucoup observé sur écran, l'a aussi été au musée. Encore une fois, les étudiants en sciences qui n'ont aucune connaissance profonde en art restaient centrés sur des éléments figuratifs, alors que les étudiants en art ont produit une analyse plus globale, hein, c'est ce que je vous disais, incluant la fixation des points clés de la structure spatiale. Les études avec une reproduction de peinture sont toujours valables, même si le plaisir esthétique par rapport aux originaux est sans doute moindre. Donc les conclusions de Zoe Capula, c'est finalement c'est à peu près la même chose, moins le plaisir esthétique d'être devant l'œuvre. Et je ne vous cache pas que, là encore, moi j'étais un petit peu perplexe sur ces résultats parce que nous poussons nos étudiants à aller voir les œuvres en vrai et pas simplement pour une question de plaisir, c'est que nous pensons que le format, mais aussi la facture, hein, l'épaisseur de la peinture, toute une série de choses qui sont vraiment propres à la matérialité de l'œuvre, sont absolument gommés devant un écran. Non pas que ça ne soit pas bien de regarder des œuvres devant un écran, hein, mais il nous semblait que finalement ces conclusions étaient surprenantes et nous avons voulu poursuivre. Et par ailleurs, hein, moi, les étudiants en sciences d'un côté, les étudiants en art de l'autre, vous voyez, moi, je ne crois pas que les étudiants... Je pense qu'il y a des étudiants en sciences, et là, je pense justement à l'astrophysique, qui ont une habitude aussi d'observation extrêmement fine et qui, à mon avis, peuvent avoir un regard tout aussi expert, même plus, que des étudiants en art. Donc, voilà, ce sont des choses qu'il faudrait peut-être discuter avec Zoé Capoula. Alors, nous avons fait une première tentative, mais où on a eu des résultats difficiles. Nous avons sélectionné un ensemble de photographies du Centre régional de la photographie des Hauts-de-France. Donc, je vous rassure, ce ne sont pas de vrais bras, c'est une photographie qui est faite au musée Grévin. Donc, ce sont des morceaux de corps qui font l'objet d'un nettoyage. Donc, nous avons fait des mesures ici qui étaient devant écran, où on voit que l'attention s'est focalisée, vous voyez, sur cette tête hein, qui est en train d'être nettoyée. J'étais un peu surprise parce que j'imaginais que les bras, justement, feraient l'objet d'une attention plus grande. Mais globalement, la plupart des résultats focalisent sur le visage. Alors, le visage est toujours un point de focalisation. Hein. Ça, les chercheurs en sciences le savent, de même que les historiens de l'art. Et ça, nous avons ensuite fait un accrochage dans les locaux du Centre régional de la photographie et fait des mesures donc avec un système qui était un système encore balbutiant avec des lunettes hein, et donc un déplacement dans l'espace. Nos mesures ont été difficiles parce que finalement, elles n'étaient pas assez précises. Vous voyez, j'ai mis ce visuel pour vous montrer. Alors, effectivement, on a l'impression que là, les bras, pour le coup, ont été davantage regardés que le reste. Mais on voit aussi que ça sort très vite du cadre et qu'il est difficile, finalement, de calibrer. Enfin, l'appareil que nous avions n'était pas suffisamment précis. Donc, nous avons mis de côté cette première... expérience, même si elle était intéressante parce qu'elle montrait à quel point l'œil était distrait justement par les photographies accrochées de part et d'autre. Donc déjà, hein, sur un écran, il n'y a qu'une image, ça permet de centrer l'attention. Donc nous avons essayé dans un autre contexte où nous avions des lunettes plus précises et c'était au Louvre-Lens à l'occasion d'une exposition qui était consacrée aux peintres Le Nain, les frères Le Nain, en 2017. Donc là, nous avons fait vraiment des séances d'enregistrement devant écran, hein, comme vous voyez, là, c'était les étudiants, avec un temps d'observation de 30 secondes, qui, l'air de rien, est un temps assez long d'observation. Je ne sais pas d'ailleurs si au musée, on reste tous 30 secondes devant chaque tableau, mais c'était pour voir jusqu'où allait l'exploration visuelle. Et puis de l'autre, ensuite, hein, nous sommes allés au musée, et là, nous avons demandé aux visiteurs s'ils voulaient bien se prêter à ce jeu-là de l'enregistrement. Alors, peut-être une remarque hein, par rapport à ce dispositif, il y a un biais malgré tout, c'est que les personnes sont conscientes d'être enregistrées, hein, que ce soit d'ailleurs pour l'écran comme pour le musée. Alors l'écran, on pourrait peut-être réussir à déguiser les choses, mais au musée, Raphaël Rosenberg a essayé de le faire dans un dispositif qui cachait les enregistrements, mais il n'a pas réussi à aboutir techniquement. Pour l'instant, on n'arrive pas encore à enregistrer à l'insu des regardeurs le déplacement oculaire, ce qui serait l'idéal hein, pour véritablement être certain que le fait de se savoir enregistrer n'a pas un effet sur les visiteurs. Néanmoins, très vite, hein, je pense qu'ils nous oublient et qu'ils sont pris par l'observation des tableaux. Alors, peut-être que je peux vous montrer quelques enregistrements, justement, qui ont été faits au musée. Je regarde juste ce que j'ai fait là. Oui, ça, c'était pour vous dire que dans les choses qui nous ont intéressées, j'avais mis cette citation de Jean-Luc Nancy sur les figures, sur les portraits à plusieurs. Quand vous avez plusieurs personnes qui sont représentées, eh bien, étrangement, souvent, les regards des personnes ne se croisent pas, hein, comme tout à l'heure pour le Renoir. Et le tableau que nous avons, sur lequel nous avons travaillé notamment, je vais vous montrer, c'est justement un portrait de groupe, ce qui fait que ça démultiplie justement les complexes de signification dont je parlais. Alors, excusez-moi, je n'ai pas ouvert correctement. Il faut que je l'ouvre comme ça. Il est déjà ouvert. Alors, hop. Donc, voilà le tableau en question. Je repars du début. C'est un spectateur au musée, hein, ici. Exactement. Que les visages. Ah, au bout d'un moment. Oui, mais... Et ces allers-retours, hein, ces fameux complexes, ces scannings dont parle Flusser. Oui, étonnamment. Donc, premier exemple, je vais vous en montrer un deuxième. Toute une partie qui n'est pas regardée, effectivement. Je vais le remettre bien du début. Donc, autre visiteur. Oui. Alors, donc deux exemples, effectivement. Je reviens en mode plein écran. Alors, oui, alors ça, on n'a pas pu le faire. C'est déjà première chose, ces deux regards que je vous ai montrés au musée, évidemment ce ne sont que deux échantillons, mais ils sont assez représentatifs de la diversité des regards que nous avons enregistrés. C'est-à-dire que justement par rapport à cette idée de modélisation, de l'eye tracking prédictif ou des cartes de science, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des manières de regarder qui étaient quand même assez variées. Bien sûr, il y a les constantes, bien sûr les visages, hein, il y a une insistance, mais la partie basse, par exemple, du tableau, effectivement, qui n'est pas du tout vue par le premier, finit par arriver hein, dans l'observation de l'autre. Et puis, François l'a relevé, il y a un moment où, très étrange, il y a une sorte d'insistance sur un motif absolument anodin, puisque c'est l'arrière-plan du tableau. Et pour nous, ce type d'exemple montre justement la spécificité du contexte muséal, parce que ce tableau a du relief, il a une certaine qualité picturale, et il est fort possible que cette personne se soit arrêtée justement, non pas sur ce que représente le tableau, mais sur la matérialité même de la peinture. Donc en tout cas, ce sont ces éléments un peu incongrus, on ne les a jamais retrouvés dans les mesures sur écran. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus, justement, uniforme. Alors, je peux vous montrer hein, ce que ça a donné. Donc, souvent, évidemment, les visages sont très regardés et la partie haute reste très explorée. Parfois, mais pas toujours, hein, on a effectivement une descente vers le bas, un arrêt sur le pied qui est quand même un petit peu mis en lumière par le peintre. Je peux vous en montrer d'autres exemples. Donc, on voit qu'il y a des parcours différents, mais globalement, on a une insistance sur la partie haute et on a en général un passage sur la partie basse, alors que vraiment dans l'expérience du musée, c'est loin d'être systématique, la présence des visages est beaucoup plus manifestement prégnante sur la perception. Donc, sans pouvoir, on n'avait peut-être pas suffisamment de données pour tirer des conclusions définitives, même si notre collègue en psychologie de la vision me disait, mais Nathalie, il suffit d'avoir trois spectateurs, ça suffit déjà pour réfléchir à pas mal de choses, mais on n'avait quand même pas quantitativement non plus 300, 400 spectateurs, mais quand même, pour nous, il y a une différence notable hein, dans les singularités justement qui peuvent exister au musée, avec un effet plus homogène et avec une vision plus globale aussi, qui insiste moins sur certains détails quand on est devant écran. Voilà, ça c'était pour remettre hein, celui qu'on a vu le premier tout à l'heure, qui a vraiment, lui, été vraiment dans une horizontalité dans la partie haute du tableau, avec une petite sortie à un moment donné, mais à mon avis plutôt distrait par un son ou quelque chose que véritablement par ce qui se passe dans le reste de l'œuvre. Alors voilà, c'était un exemple. Je me rends compte que... Non, j'ai encore une dizaine de minutes, c'est ça. Je vais essayer d'aller vite. Autre aspect des objectifs de notre programme, confronter et articuler les théories de la perception et les données oculométriques. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous trouvons beaucoup de traces écrites d'une description d'un cheminement du regard. Mais ces traces écrites n'ont jamais été confrontées aux mesures. Du coup, nous avons essayé de travailler à partir d'un côté d'écrits théoriques et de l'autre, nous avons aussi travaillé à partir d'œuvres d'artistes qui eux-mêmes, dans leurs propos, évoquent beaucoup le regard. En photographie, on a travaillé avec cet ouvrage de Roland Barthes. Je ne sais pas si vous le connaissez, hein, mais il est dans le champ de l'histoire de la photographie. C'est un incontournable, La chambre claire. Et ce qui est intéressant, c'est que la méthode de Roland Barthes, c'est qu'il part de sa propre perception des photographies. Il commente ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Donc, il est vraiment dans une théorie de la perception. Et il donne des exemples très précis. C'était l'avantage pour nous. Il prend telle photographie et il dit « je regarde ceci, je regarde cela, ce qui m'interpelle, c'est ceci, cela ». Donc ça, c'était l'aspect qui était très pratique pour nous puisque nous avons pu reprendre les photographies qu'il commentait et les soumettre aux mesures oculométriques. L'autre chose qui est intéressante chez Roland Barthes, je n'ai peut-être pas trop m'attarder, mais il y a différents concepts qui sont développés dans son ouvrage. Ceux qui nous ont intéressés, c'est qu'il essaie de distinguer deux régimes de perception pour la photographie, ce qu'il appelle le studium et le punctum. Le studium, il dit, c'est une sorte d'attention appliquée, studieuse justement, mais sans excès, un peu générale, comme on regarde quand on regarde des images de la documentation, on s'informe. Donc c'est un degré de perception intéressé, mais sans excès. Le punctum, en revanche, pour Barthes, c'est quelque chose qui vient de l'image. Il appelle ça une blessure, une piqûre, il parle d'une marque ou d'une ponctuation aussi. C'est un point qui viendrait de l'image et qui va venir comme ça saisir mon regard. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a des photographies qui restent en notre mémoire, que l'on aime regarder, sur lesquelles on revient, parce que finalement, elles ont cette chose en plus qui a capté notre attention. Ce que je trouve intéressant dans cette théorie de Roland Barthes, c'est qu'on peut la mettre en regard des théories de la perception aujourd'hui qui sont basées sur l'oculométrie. Notamment, il y a pour les psychologues et les spécialistes de la vision une première phase qu'on appelle de pré-attention. Et c'est ce que Roland Barthes va appeler, lui, le regard sauvage. C'est le regard inconscient. Hop, il y a quelque chose qui nous attrape dans l'image, mais ça, c'est vraiment dans les premières secondes. On ne contrôle pas. Ensuite, il va y avoir une autre phase. Après le bottom-up, c'est le top-down, où au contraire, on va piloter davantage notre regard. On va aller explorer, nous allons être actifs dans l'image et ça pourrait éventuellement correspondre au studium. Mais le punctum peut renvoyer à ces points de fixation que l'oculométrie essaie de déterminer. Alors, je vous montre une photographie de Nadar qui est dans l'ouvrage de Roland Barthes et qu'il commente. Et il dit, justement, il va dire où se trouve pour lui le punctum. Il dit, le punctum pour moi, c'est-à-dire, ça serait un point inconscient mais qui viendrait attraper mon regard, ce sont les bras croisés du mousse. Voilà, je vous remets l'image. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Roland Barthes désigne le punctum, alors que celui-ci est censé être inconscient. Donc déjà, c'est une manière de faire un peu paradoxale. Alors nous avons essayé de voir si ces bras croisés faisaient l'objet d'une attention particulière. Donc là, j'ai mis trois exemples de spectateurs. Là, on est avant la première seconde. Donc on est dans la phase de pré-attention, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de là où on regarde. Et en général, pour la plupart des images, cette phase de pré-attention, c'est à peu près au centre de l'image, parce que nous avons une vision centrée, nous n'allons pas les regarder spontanément vers les bords. Et puis, parfois, c'est le visage, mais vous voyez déjà que pour trois personnes, on a trois moments de pré-attention différents. En tout cas, aucun bras croisé dans nos premières secondes. Alors ensuite, sur les cinq premières secondes, on voit que ça se déplace de manière extrêmement aléatoire, en fait, là encore. Mais pas spécifiquement là où Barthes l'a pensé. On avance encore dans le temps, au bout de 15 secondes. C'est arrivé parfois, mais finalement, pas plus que le reste. Alors évidemment, comme c'est une théorie qui se fonde sur un inconscient visuel, c'est difficile d'être certain que l'oculométrie peut répondre à l'hypothèse de Roland Barthes, mais néanmoins, je pense qu'il n'a... Enfin, ce que nos mesures ont montré à chaque fois que nous avons soumis des images et qu'il y avait une désignation de la part de Roland Barthes sur un point précis, les résultats n'étaient pas probants. Le regard n'était pas plus attiré vers cet endroit que d'autres. En revanche, je pense que là où Roland Barthes a raison, c'est quand il a finalement distingué deux types d'attention. Quand il s'est rendu compte qu'effectivement, il peut y avoir d'abord des choses dont nous ne nous rendons pas compte, mais que nous regardons. Et ça, effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est la surprise des mesures. Il y a des zones, après coup, que les spectateurs ont été surpris d'avoir regardées. Il y a aussi des zones où on est surpris de ce qu'on n'a pas regardé. Nous avons beaucoup travaillé avec les étudiants à partir de ce qui n'est jamais regardé dans un tableau, qui est quand même, voilà, qui pose question. Et en tout cas, il distingue une attention qu'on peut appeler exploratoire. Hein. Ça, c'est disons, justement, une vision globale, un peu ce scanning dont parlent certains spécialistes de la vision, avec une exploration qui va être beaucoup plus précise sur certains détails, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, au musée. Ça, il avait perçu qu'effectivement, il y a deux régimes, deux manières de voir, et que ces deux manières de voir, un peu dans la globalité ou au contraire dans la précision, s'alternent dans la perception des images. Mais encore une fois, vous voyez, bon, les bras du mousse. Alors, on pourrait prendre aussi cette photographie de William Klein. Là, pour lui, ce qu'il regarde, il dit, hein, ce que je vois avec obstination, ce sont les mauvaises dents du petit garçon. Eh bien, les mauvaises dents du petit garçon font l'objet d'une attention, effectivement, mais il y a d'autres éléments, on le voit, qui vont retenir l'attention des spectateurs, et ce n'est pas très étonnant, parce que, quand même, la clé de cette photographie, c'est ce jeu avec l'arme, mais qui est quand même quelque chose qui nous saisit assez vivement. Donc, là encore, hein, de la même manière, ce n'est pas flagrant, mais je crois qu'il ne faut pas retenir tant la désignation des points de fixation que l'idée que nous avons des manières, à certains moments, d'être attrapés par des points particuliers dans l'image. Ça, en revanche, je pense que c'est assez juste. Voilà. Alors, s'il me reste encore un tout petit peu de temps, peut-être vous parler de photographie encore, de cet artiste Jeff Wall, donc cet artiste canadien dont je vous ai montré déjà quelques images. Pourquoi Jeff Wall, on l'a utilisé? Parce que c'est un metteur en scène photographique. Toutes ces images sont, mais alors au millimètre près, pensées, tel objet est placé ici ou là, et aussi parce que c'est quelqu'un qui est fasciné par la question du regard. Hein. J'avais noté, voilà, il dit « l'œil est un organe cherchant ». Pour lui, le spectateur, c'est un enquêteur. C'est quelqu'un qui est actif. En tout cas, ces images sont construites de manière à nous mettre en situation de recherche. Donc, dans un rapport non pas passif, hein, où finalement on recevrait des informations et puis on les regarderait parce qu'on nous dit de les regarder ici ou là, mais au contraire, où finalement il nous mettrait en capacité de faire une recherche à l'intérieur de l'image. Au passage, par rapport à cette question du fait qu'une image serait capable de nous amener à regarder tel ou tel endroit, Hitchcock disait qu'il faisait, c'était mon collègue de cinéma qui m'a dit ça, donc Hitchcock disait qu'il faisait de la direction d'acteur, mais aussi de la direction de spectateur. Et si vous avez en tête les films d'Hitchcock, ils sont extrêmement directifs, parce que la caméra va vous amener, par exemple, dans Fenêtre sur cour, à tel endroit, regarder tel personnage, etc. Nous avons fait des essais aussi sur un film d'Hitchcock en oculométrie, eh bien, finalement, les regards ne suivaient pas tant que ça le mouvement de la caméra. Mais donc, pour vous dire que cette question de la direction du regard, hein, est-ce qu'un artiste est capable de produire une image dont il sera certain que le spectateur regardera ici ou là, c'était une des questions qui nous intéressait, et Jeff Wall est pour ça est quelqu'un qui est particulièrement fructueux d'analyser. Alors, lui, il parle aussi d'un feu follet, quelque chose qui, en permanence, serait mobile dans l'image. Et effectivement, il me semble que nos mesures sont allées dans le sens de ce que l'artiste décrivait. Ça, c'était encore des cartes de science. C'était pour vous montrer comment je pense vraiment que Jeff Wall est quelqu'un qui a une véritable conscience, connaissance des mécanismes de notre vision et qu'il volontairement les déjoue. Par exemple, dans cette grande photographie hein, qui fait plus de 4 mètres de long, il faudrait rentrer dans le détail, il n'y a rien au centre. Et ça, c'est quelque chose qui, eh ben voilà, quand vous passez ce type d'image à la carte de science, elle vous dit pourtant qu'on va regarder au centre parce qu'il a mis les contrastes les plus forts. Mais il nous oblige à aller voir à la périphérie, à aller chercher des détails. Alors, je ne vais pas rentrer là dans le détail, mais par exemple, cette scène, c'est une reprise du Déjeuner sur l'herbe de Manet. Enfin, il y a toute une série d'éléments en fait, qui sont très intéressants, mais qu'on ne voit pas tout de suite et qui ne sont surtout pas au centre. Un autre exemple, cette photographie toujours de Jeff Wall, où on a ce personnage dans l'ombre, on ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire. Et bien finalement, là, il est au centre, le personnage, mais il n'est pas à la lumière. Et la carte de science, par exemple, nous dit on ne regardera pas le personnage. Donc il joue vraiment, on voit très bien, presque par une démonstration inversée, à quel point il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Alors, au passage, pourquoi cette image nous avait particulièrement intéressés ? Je ne sais pas si vous voyez un détail un peu étrange, je ne sais pas si la reproduction permet de le voir, mais en fait, cette photographie où on a le sentiment qu'il se passe bien peu de choses, eh bien, ici, vous avez une petite photographie en plus qui a été collée sur la plus grande. Moi, la première fois que j'ai vu cette photographie, j'étais au musée. Je suis passée d'abord, je ne l'ai pas vue tout de suite, je suis revenue. Puis au bout d'un certain temps, j'ai remarqué ce petit détail. Là aussi, Jeff Wall joue sur notre vision parafovéale, c'est-à-dire vraiment ce qui se trouve à la limite du tableau. Et je pense qu'on peut très facilement ne pas la voir. Donc nous, ça nous intéressait d'autant plus de faire des mesures de ce type pour voir à partir de quand nous regardons, est-ce que nous voyons cet élément de détail. Et ça renvoyait aussi à cette question des écrans partagés, justement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ignore finalement quand il y a plusieurs images dans l'image ? C'est peut-être cette image-là sur laquelle je vais m'arrêter le plus longuement, parce que je la trouve, c'est presque une mise en abîme de notre propre position de regardeur, puisque nous voyons en fait des policiers en train de faire une perquisition dans une maison. Donc nous sommes des regardeurs en train de regarder des regardeurs qui sont eux-mêmes complètement happés par les objets qu'ils regardent. Alors il faut savoir que Jeff Wall a suivi pendant plusieurs semaines des policiers pour les voir au travail. Puis ensuite, comme ce sont toujours des mises en scène, il a choisi la maison, il a caché un objet dedans, il a dit aux policiers il y a quelque chose à trouver. Donc il les a mis en situation de recherche. Et il les a photographiés dans cette situation, avec une mise en scène, encore une fois, très précise, etc. Et si vous regardez, d'ailleurs, il n'y a aucune ouverture véritable. On est à chaque fois un peu dans des impasses visuelles, parce qu'on ne voit rien à travers la fenêtre. Ici, il y a un appareil, une lunette pour regarder dehors, mais on ne voit rien. La cuisine, l'arrière-plan est bouché. L'escalier, on ne sait pas où est-ce qu'il mène. Enfin, on est comme ça, finalement, enfermé à l'intérieur de cette image. Mais ce qu'ont montré les mesures oculométriques, c'est qu'on fait la même chose que font ces hommes en train de chercher. On est en position de recherche, d'enquête. Et alors ça, c'était la carte de science. Pour le coup, je la trouvais très intéressante parce qu'elle montrait qu'à nouveau, Jeff Wall maîtrise parfaitement les contrastes. Et les trois points d'attention, ce sont les trois présences humaines, plus spécifiquement les mains. Pourquoi ? Parce que les mains sont gantées de noir, donc il y a un contraste particulièrement fort. Donc il y a une dimension très haptique en fait à cette image. En tout cas, dans les mesures que nous avons effectuées, dans les premières observations que nous avons vues, c'est qu'il y avait vraiment des saccades extrêmement variées. Les chemins qu'emprunte l'œil devant cette image de James Fall, comme vous le voyez, sont vraiment singulière. Il y a des manières de procéder chez les spectateurs qui sont vraiment très très variées. Donc cette idée du feu follet, de ces mouvements qui balayent l'image, c'est particulièrement vrai puisque nous cherchons quelque chose et nous ne trouvons rien, mais dans n'importe quel sens. En revanche, les zones saillantes, les points de fixation, étaient quand même souvent les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on cherche des indices, il faut bien se mettre quelque chose sous l'œil, je pourrais dire. Et donc, forcément, les baskets au premier plan, les éléments que regardent les hommes vont revenir dans la perception. Mais voilà l'exemple d'un artiste qui, à mon avis, maîtrise parfaitement les jeux, les mécanismes de la vision, et les mesures oculométriques nous l'ont bien confirmé. Ça, c'était pour vous montrer, mais je vais passer. Mais on voit que selon les individus, d'abord, dans les 5 premières secondes, aucun n'a vu le petit élément ajouté. Et ensuite, bah, ça c'est une grande diversité, hein. Certains vont l'identifier, mais c'est souvent au bout d'un temps long, effectivement, qu'on va avoir ce type de focalisation. Bon, là, c'était pour vous montrer le cas d'un artiste qui dirige notre regard et qui le fait vraiment de manière absolument d'une très grande efficacité. Ces trois photographies, finalement, c'est le même plan. Simplement, on a une définition de l'image, un point de netteté qui varie du premier plan au plan intermédiaire jusqu'à l'arrière-plan. Donc, on se trouve face à un homme qui regarde quelque chose. On comprend à la deuxième image qu'il regarde un miroir. Sur la surface du miroir, nous voyons du texte. « James, I love you ». On devine quelque chose dessiné peut-être au rouge à lèvres. Et puis, la troisième image dévoile finalement une sorte d'intrigue, hein, comme un scénario de cinéma. On voit un corps de femme au bas des escaliers, un policier, donc on imagine que peut-être est-ce la femme qui a dit à James qu'elle l'aimait avant de se suicider. Et en fait, la manière dont Hilliard travaille fait que nous, vraiment, nous le suivons et c'est lui qui nous dirige. Et ça, c'est un sentiment qui est comme ça intuitif, mais que nous avons retrouvé très vite aussi dans les mesures oculométriques. Les zones de netteté sont observées en priorité, ils jouent avec les effets de netteté et de flou, évidemment. Et puis, on voit bien que les variations de l'image vont diriger le regard dès les premières secondes. Donc, encore une fois, une confirmation de cette capacité qu'ont les artistes, finalement, à jouer avec les mécanismes de notre vision. Dernière chose sur laquelle nous avons travaillé, je finirai là-dessus pour conclure, comment faire œuvre avec l'oculométrie. Donc là, on passe du côté des artistes et plus des historiens de l'art. Michel Payzan fait partie des artistes, hein, les plus connus qui dessinent avec des eye tracking, ce qui est loin d'être facile, parce qu'il faut une maîtrise du regard vraiment extrêmement contraignante et c'est tout un entraînement et c'est assez impressionnant, hein, de le voir d'ailleurs par les mouvements oculaires enregistrés par la caméra, dessinés à l'écran. Je vais peut-être passer sur ça. Un autre artiste, Julien Prévieux, qui lui, à la suite d'une exposition, pendant l'exposition, a enregistré le regard des spectateurs et l'exposition suivante, à la place, en lieu et place des œuvres, a mis les déplacements de regard. Alors, vous connaissiez le tableau correspondant, donc c'est ça qui était intéressant, c'est parce que du coup, c'est une manière de voir sans voir l'œuvre en question, mais c'est pour vous dire à quel point il y a un attrait chez les artistes aujourd'hui pour ces techniques. Et puis, finir peut-être sur une étudiante artiste à l'époque, nous avons fait aussi une exposition, puisque nous avons une galerie d'exposition à l'Université de Lille, avec de jeunes artistes. Et Fanny Pantel a fait quelque chose que j'ai trouvé très intéressant finalement. Elle a enregistré le déplacement de ses yeux pour une même image, mais en fonction de ses humeurs, en fonction de l'état de la journée. Et elle a comme ça tenu tout un registre, fatiguée le matin, après avoir fait de la méditation, en colère. Et c'était très intéressant parce que ça montrait justement la nécessité de prendre en compte un contexte élargi, hein, évidemment sociologique, mais aussi comportemental, on pourrait dire, pour véritablement pouvoir tirer des conclusions des mesures oculométriques, hein, qui dépendent de toute une série de facteurs, y compris de notre propre disposition au moment où nos yeux sont enregistrés. Voilà, donc vous voyez que ce sont plutôt des questions que nous avons soulevées dans ce programme et qu'il y a beaucoup de choses encore à explorer. Mais je crois que c'est justement l'intérêt, hein, de l'usage de l'eye tracking, c'est de reposer des questions anciennes de l'histoire de l'art sous un autre jour. Je vous remercie pour votre attention. Merci.
Bien, y a-t-il des questions parmi ceux qui sont dans la salle? Alors, pendant que vous réfléchissez, moi, je vais vous en poser une. On a vu beaucoup de choses, mais je n'ai pas vu beaucoup d'art abstrait. J'ai pas vu, et je me suis posé la question de est-ce qu'on, dans la mesure où on trouve des généralités, des similitudes de regard, est-ce qu'on regarde différemment de la peinture classique, du cubisme, Si je mets un tableau de soulage, qui est encore une autre catégorie, est-ce que vous avez pu aborder cette problématique? Est-ce qu'il y a des éléments de réponse?
Alors, on l'a fait un tout petit peu parce que j'avais la même curiosité que vous.
Voilà.
On a même essayé avec un monochrome, c'est pour vous dire, un monochrome d'Yves Klein bleu absolument uniforme.
Yves Klein, oui, par exemple.
Mais on n'avait que la reproduction sur écran. Donc, en fait, ça n'a rien donné parce que... rien donné. On s'est rendu compte qu'il aurait fallu le faire au musée, pour le coup, sur le monochrome. Sur la peinture abstraite, on n'a pas vraiment eu le temps de le faire, mais je pense... En ayant vu quelques mesures d'étudiants qui, par curiosité, l'ont fait, je crois, sur un Kandinsky de mémoire, finalement, le fait qu'il n'y ait pas de figure libère le mouvement oculaire, justement. Hein, c'est bien qu'on ait ce visuel sous les yeux, parce qu'on voit à quel point la figure humaine captive l'attention. Libérée de cette figuration, finalement, il y a une grande mobilité et on voit que les contrastes colorés, les effets... Là, je pense qu'il aurait été intéressant de travailler justement sur les effets de complémentarité. On sait par exemple que certaines couleurs accrochent plus que d'autres, le rouge plus que le bleu, etc. Donc ça serait un programme à faire en soi. Des quelques éléments que je n'ai pas à disposition là, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est précisément que ça mettait de côté la question de la figure. Voilà. Et que donc, du coup, ça montrait à quel point il y avait une exploration qui était liée à des enjeux de peinture, finalement, hein, les contrastes, la composition, les formes. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait de le croiser justement avec les écrits de Kandinsky, qui lui-même avance des hypothèses très précises sur les effets de la couleur. Est-ce que le jaune sonore comme une trompette va vraiment produire cet effet? Donc c'est plutôt une très bonne piste à suivre.
Tiens, je vais te prêter mon micro parce que l'autre n'est pas allumé.
Merci beaucoup. Il y a quelque chose d'intéressant mais qui sort de l'histoire de l'art. Ce serait peut-être de considérer des différents spectateurs dans différents états culturels ou différents états sociologiques ou économiques. Et puis de voir, est-ce que, par exemple, quels sont les paramètres qui déterminent le regard, par exemple, un jeune ou un vieux, quelqu'un d'aisé ou quelqu'un au contraire qui a plein de problèmes, etc. Est-ce que ce genre de choses, vous êtes en mesure de le faire ou au contraire, c'est hors de votre champ?
Alors, en fait, on s'est posé la question et c'est vrai que notre parti pris a été de nous focaliser sur les artistes, les pratiques et les œuvres, et pas du coup d'une sociologie des spectateurs. Mais par contre, Raphaël Rosenberg, lui, travaille là-dessus actuellement. Il a travaillé sur le regard des femmes et le regard des hommes. Je ne connais pas il a travaillé là-dessus. Ouais, c'est très d'actualité en plus, ces questions. Il a essayé aussi, je crois qu'il a une doctorante qui travaille dans un contexte en Asie. Alors, je ne sais plus où exactement, mais si on veut voir si... Ce sont des questions complexes, parce que est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait un regard asiatique je pense que... mais par contre, pouvoir travailler sur des sujets qui ont une culture spécifique et qui ont peut-être, du coup, ne serait-ce que dans l'éducation, dans l'enfance déjà, des modèles visuels qui ne sont pas les mêmes que, par exemple, ceux que nous avons en Europe, voir si ça a des incidences sur la perception des œuvres. Il travaille dans ce sens. Alors, c'est vrai que je l'ai vu il y a quelques mois, mais je ne sais pas où il en est de ses recherches. Là, je crois qu'il faut des sociologues et des historiens de l'art pour travailler ensemble, et il me semble que c'est ce qu'il met en place. Mais pour moi, c'est intéressant, mais je pense que ça ne peut pas être le seul critère. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai fini sur travail des humeurs, c'est-à-dire que je pense que même déjà entre une catégorie qui serait censée être homogène de ce point de vue-là, même classe sociale, même contexte culturel, je pense qu'on va voir apparaître quand même beaucoup de disparités. Je pense aussi qu'il faudrait en tout cas prendre en compte quel type de pratique de regardeur nous avons dans notre quotidien. Un architecte, un astrophysicien, un designer, est-ce qu'ils vont regarder de la même manière? Donc c'est un ensemble de critères qu'il faudrait croiser, effectivement.
Cette réflexion vient de ce que vous avez montrer ce que Roland Barthes mettait. Bon, mais Roland Barthes, qu'on le veuille ou non, était totalement singulier, je veux dire, puisque, enfin, et donc, il n'est pas étonnant que ce qu'il a pointé, enfin, moi, voilà. Bon, pour moi, c'est anecdotique. Et pour lui, ça l'est.
Oui.
Mais je comprends que ça ne le soit pas pour lui, oui.
Alors, je pense qu'en plus, dans le cadre Roland Barthes, il a beau dire, il a beau essayer de penser le punctum comme quelque chose qui n'est pas conscient, je pense que là, c'est au contraire une analyse très culturelle qu'il fait, parce qu'en fait, les bras croisés du mousse, à mon avis, c'est plutôt un signe de refus d'autorité par rapport justement à voilà, une relation qu'il y a entre le mousse justement et celui à qui il est censé obéir. Alors que si vous regardez la main de l'autre qui est plutôt peut-être un signe de soumission, mais en tout cas, à mon avis, il y a une dimension culturelle colonialiste, je dirais, là, dans ce contexte de photographie, qu'il faut prendre en compte, qui est sûrement beaucoup plus déterminant, à mon avis, pour Barthes, que l'inconscient visuel, je pense.
Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la lourdeur du dispositif technique ? Parce que, en fait, pourquoi je vous pose cette question, c'est qu'on a, manifestement envie de multiplier ces expériences, de prendre une personne à 10 heures de la journée différente, puis après de prendre quelques milliers de personnes sur quelques milliers d'œuvres, de faire un croisement. Donc, on sent bien, et c'est tous les progrès de l'apprentissage profond, de l'intelligence artificielle, etc., pour sortir des éléments, disons, intéressants, des régularités, il faut un apprentissage, enfin, il faut une base de données, entre guillemets, qui soit colossale. Et donc, pour qu'il y ait une base de données colossale, il faut donc des moyens qui ne soient pas trop lourds à mettre en œuvre. Donc, si vous pouviez nous en parler un peu plus.
Eh bien, j'avoue qu'effectivement, pour moi, ça a été une sorte de découverte, puisque dans le champ de l'histoire de l'art, on travaille de manière assez légère. Hein. Finalement, il suffit d'être devant un tableau et puis lire nos livres, aller en bibliothèque, discuter avec les artistes. Alors que là, j'ai mesuré la dimension chronophage de ce type de recherche. C'est pour ça qu'on n'a pas allé aussi loin qu'on l'imaginait, qu'on n'a pas pu tout faire. Parce qu'effectivement, il faut quand même essayer d'avoir un échantillon de personnes suffisamment nombreux pour qu'on puisse avoir des résultats intéressants. Parce que surtout, ce n'est pas tant l'enregistrement lui-même, ça prend du temps, certes. C'est vrai que si vous avez même 300 personnes qui doivent chacune regarder une minute, 15 images, ça fait un quart d'heure par personne. Enfin, vous voyez, il faut quand même pouvoir mobiliser ça. Mais c'est surtout le traitement des données derrière. C'est-à-dire que ce sont des données brutes qui ensuite vont être mises en image, hein, et il y a des tas de possibilités. Est-ce qu'on va décider de montrer les saccades ou les points de fixation ? Est-ce qu'on va décider plutôt de traiter par des cartes un petit peu comme des cartes de chaleur, on va montrer des zones ou est-ce qu'on va déterminer des points précis, etc. Et ça, c'était le gros travail du collègue qui est en charge dans l'équipement que nous avons à Lille, donc le collègue psychologue, de traiter ces données. Il lui fallait des heures entières, il fallait faire tourner les ordinateurs, etc. Alors aujourd'hui, ça a peut-être un petit peu, on arrive peut-être à aller plus vite, mais effectivement, il faut beaucoup de temps avant de pouvoir peut-être extraire de véritables données. Si on est peut-être du point de vue de la sociologie ou de résultats, comme justement notre collègue qui travaille sur les problèmes de lecture, il a besoin d'éléments concrets. Pour les historiens de l'art, ne serait-ce qu'un extrait de film passé devant 2-3 personnes avec les étudiants, pour réfléchir à l'analyse de film, par exemple, c'était déjà un outil parce que avoir déjà la connaissance de quelques regards, ça permet de se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire que c'était plutôt un outil questionnant que quelque chose qui nous donnait des résultats probants. Mais c'est vrai qu'on a, enfin, techniquement, c'est pas tant l'enregistrement que le traitement des données. Au musée, il y a peut-être une chose aussi qui est quand même problématique. On n'avait pas un dispositif complètement mobile, donc il fallait que quelqu'un suive avec l'ordinateur. Donc je peux vous montrer. Là, on voit en fait, là il y a la personne qui porte les lunettes, et là il y a quelqu'un qui suit en fait pour pouvoir enregistrer les données. Donc on est loin d'être dans les conditions vraiment idéales.
Oui, parce que ça donne envie tout de suite d'imaginer un système Wi-Fi ou quelque chose et distribuer des lunettes à l'entrée de l'exposition et d'avoir systématiquement l'intégralité des spectateurs sur l'intégralité des œuvres et après avoir une étude telle que nous. Enfin bon, je suis cosmologue. Donc, en fait, j'ai envie d'avoir des échantillons assez complets pour pouvoir faire des analyses. Et là, on sent que vous êtes aux toutes premières observations.
Oui, oui, complètement.
Et on a l'impression qu'il y a un stade d'industrialisation, entre guillemets, si je peux me permettre, ou de mise à l'échelle qui est tentante.
Oui, oui, oui. Non, mais soyons clairs, moi, ça a été un programme, on avait à peine 2 ans, enfin, le temps de mettre en place le dispositif. On a manqué beaucoup de temps et de moyens. Raphaël Rosenberg, lui, ça fait une vingtaine d'années qu'il y travaille. Il y a un laboratoire de recherche qui est dédié à ces recherches. Donc, je pense que là, il faut regarder de ce côté-là parce que, effectivement, on est dans quelque chose qui s'approche de ce que vous évoquez.
C'est peut-être trop tôt, mais ce qui serait amusant, c'est que vous confrontiez, par exemple, il y a des artistes contemporains qui font des œuvres. Et que vous confrontiez, et ils savent pas forcément ce qui intéresse ou ce qui va pointer là où le regard des spectateurs, et de leur dire, ben voyez, sur cette œuvre que vous avez faite, voilà ce que les spectateurs, de voir si effectivement leur intention, parce qu'ils avaient une intention, elle a été capté par les spectateurs ou absolument ou au contraire les spectateurs voient totalement autre chose que ce que l'artiste voulait mettre.
Oui, ça serait intéressant de le faire. Je pense qu'il y a des artistes qui vous diraient que ils n'ont aucune intention particulière, ils n'attendent rien a priori des spectateurs. Et puis vous auriez plutôt un peu comme Hitchcock avec sa direction de spectateur qui veut vous emmener à tel endroit, ou comme John Lillard, hein, vous avez vu avec ses images qui finalement essaie vraiment de nous guider. Avec John Lillard, on pourrait le faire. Je pense qu'il ne serait pas surpris du résultat finalement. Hein. Je pense que les artistes, beaucoup d'artistes, quand on leur demande ce qu'ils pensent de ce que perçoivent les spectateurs de leurs œuvres, disent « mais finalement, moi, une fois que mon œuvre est faite, libre à chacun de l'aimer, de ne pas l'aimer, de la regarder comme ci, comme ça. » Mais on voit bien que quand Julien Prévieux, il remplace les œuvres par les mesures, c'est parce qu'il a une vraie curiosité pour la manière dont nous regardons les œuvres. Donc, pourquoi pas ses propres œuvres, effectivement.
Une autre petite curiosité, c'est que c'est une approche très internationale. Il y a des gens, dans surtout les continents, qui pratiquent l'oculométrie ou en fait c'est une singularité française.
Dans le domaine de l'art ou en général?
Oui, les deux.
Alors, dans le domaine de l'art, j'ai pas une connaissance très étendue, parce qu'encore une fois, moi, c'est un tout petite poche de ma recherche, hein, très, très périphérique, mais pour moi, le grand spécialiste, ça reste Raphaël Rosenberg, qui est à Vienne. Aux États-Unis, hein, il y a un certain nombre de chercheurs, du côté du cinéma notamment, me semble-t-il. Mais en art, je pense que ça reste assez rare. Et je crois que vraiment, notre collègue Raphaël Rosenberg est le spécialiste. En revanche, si on élargit le champ, je crois qu'aux États-Unis, en Europe...
Non, mais quand il s'agit de faire de l'argent, peux imaginer que la manière dont on analyse un site web, une publicité,
ça, voilà.
bien sûr.
Oui, c'est exactement
tout ça. Non, je parlais vraiment...
Où est-ce qu'on les met Alors ça marche bien, oui.
Non, c'était plus justement les questions peut-être moins directement commerciales qui motivaient ma question. Ouais.
Non, voilà. À ma connaissance, voilà. Il y a eu une recherche il n'y a pas très longtemps aussi pour la restauration d'une œuvre où, son nom m'échappe tout de suite, c'est Michel Menu qui a travaillé justement sur ces questions. Donc il y a des doctorants aujourd'hui qui travaillent quand même en oculométrie. Donc là, ça s'est passé en France. Je pense qu'en Europe, il y a quelques... Voilà, justement sous la direction de nos collègues.
Très bien. Est-ce qu'entre-temps, dans la salle, il y a une personne qui a une question que vous souhaitez poser ? Sinon, on va vous applaudir.
Merci beaucoup, en tout cas,
remerciant
de votre attention.
D'être venu.
Merci à vous.